France Inter, franceinter.com.
Et bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans cette émission qui empêche de réchauffer, de polluer et de consommer en rond, en tout cas qui essaye. Entre 15h et 15h30, vous retrouverez Fabienne Chauvière qui vous proposera, elle, le portrait d'un scientifique dans son laboratoire. Mais auparavant, une heure d'écologie, d'environnement, avec aujourd'hui Fabrice Desmaz et Julien Dumont à la technique, et assisté de Sophie Ledoré, Jean-Christophe Pinaza, je ne l'oublie pas, et Maïté Adam réalise cette émission aujourd'hui. Une petite humeur, alors une petite humeur romaine, puisque c'est Benoît XVI qui a inauguré hier, en papa mobile et en avant-première, la semaine européenne de la mobilité durable. Une semaine pour bouger autrement, à pied, en train, à vélo. Alors le vélo, on le sait, c'est excellent pour la santé, à condition d'éviter certaines rues ou couloirs de bus de Rome et de Paris. C'est même le moyen de transport le plus rapide pour les petits trajets en ville ou ailleurs. Alors la semaine de la mobilité, c'est la fête des trottinettes, des planches à roulettes et autres objets roulants non identifiés, avec des tas d'événements partout en Europe. Grande course des banlieusards à Édimbourg, et je vous rappelle que l'année dernière, ce sont les cyclistes qui ont gagné. On a aussi en ce moment un référendum en Suisse pour lutter contre la consommation de grosses voitures, c'est pas encore le cas en France. Fête des transports durables ce week-end à Paris et à Lyon. Journée des transports publics mercredi dans toute la France. Alors parking, relais, covoiturage, plan de déplacement d'entreprise. Sans oublier les débrayages chez Renault, parce que sortir un 4x4 au printemps et mettre à pied 6000 salariés à l'automne, eh bien non, ce n'est pas de la mobilité durable. Alors vous me direz, les transports doux, la randonnée et tout ça, c'est pas toujours sans risque. Et oui, prenez l'ours Balou. Dimanche dernier, dans les Pyrénées, il aurait dû choisir le covoiturage pour aller faire ses provisions avant sa grande sieste hivernale. Parce que se promener à pied sur un sentier, au cœur d'une réserve naturelle de chasseurs au sanglier, évidemment, c'est un petit peu risqué. Surtout quand on tombe sur des adeptes de la méthode dite du tir d'instinct. Du genre, on flingue d'abord et on pose des questions ensuite. Donc encore un qui a trop vu de films d'Olivier Stone et de Quentin Tarantino. Faites-vous la différence, mon con, entre un sanglier et un ours? Eh bien, c'est une question qui n'est pas posée au permis de chasse. Et oui, pourtant, il y a quelques différences. D'après les informations fournies par le tout nouveau fichier de police Edwige, Balou est un mâle adulte d'origine slovène, en bonne santé, de mœurs hétérosexuelles, n'ayant jamais sollicité de mandat politique ou syndical. Sauf que Balou est également soupçonné d'être impliqué dans plusieurs affaires de disparition de brebis et donc automatiquement fiché dans la catégorie des individus susceptibles de porter atteinte à l'ordre public. Pour éviter à nos chasseurs ariégeois de confondre les ours bruns et les sangliers, nous proposons de leur fournir un trombinoscope réalisé par les renseignements généraux sur la bande organisée des ours pyrénéens qui sévissent dans cette belle région. Tout en rappelant que les plantigrades en question se nourrissent essentiellement de végétaux et que la crise ovine actuelle trouve ses sources très loin des faiblesses gourmandes de l'ours pour la brebis. Bref, nous voilà pas du tout rassurés pour le sort et l'avenir des ours pyrénéens. Enfin dans l'actu, Armstrong, Messi, vous savez bien, le type qui joue de la trompette, qui a marché le premier sur la Lune et qui a gagné 7 Tours de France à l'eau minérale. Et bien Lance Armstrong revient à la compétition, c'est une excellente nouvelle pour les ours, car quand le Tour 2009 passera dans les Pyrénées, les enfants de Balou n'auront qu'à ramasser les seringues de PO, ainsi ils fuiront 100 fois plus vite devant les balles des chasseurs. Et au menu de cette émission, eh bien Jean-Marie Pelt dans quelques instants nous parlera de la faim dans le monde. Il y aura notre séquence carton rouge et carton vert. Alors carton rouge, ce sera plus de pesticides dans nos assiettes grâce à la Commission européenne. Et le carton vert, ce sera un spectacle de guignol pour les enfants qui se met au vert au but de Chaumont à Paris. Mais entre les deux, il y aura aussi ceci.
Ce qui plaît à tout âge, aux gourmands, aux gourmets, c'est leur voix des potages, votre potage au poulet. Le potage juste cru que l'on peut préparer en 6 minutes, pas plus, pour corser un dîner.
Un cordon bleu ne fait pas mieux, c'est un régal sans égal. Goût
rajouter donc du potage au poulet, monsieur Pru.
Alors je vous rassure, on ne va pas faire une émission sur le potage, quoique, hein, c'est tout à fait intéressant. Non, mais simplement, on va s'intéresser à notre consommation responsable, la consommation responsable de A à Z, aux éditions du Village Mondial. C'est le livre qu'a sorti Marie-France Corps. Marie-France Corps, bonjour.
Bonjour.
Alors Marie-France, vous êtes une femme qui connaissait vraiment ce domaine-là depuis très longtemps parce que vous avez dirigé pendant 17 ans les tests des produits de l'UFC Que Choisir. Vous êtes aussi ingénieure en design industriel. Et j'allais vous poser la question, c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui donnent des conseils tout à fait réguliers, des fameux gestes écologique, une autre manière plus éthique, plus environnementale de consommer. Quelle est un petit peu la différence? Qu'est-ce que vous avez voulu dire, vous, dans ce livre?
J'ai voulu donner des conseils, en effet, mais ce qui m'importait surtout, c'était d'expliquer pourquoi. Pourquoi les éco-gestes? Pourquoi consommer autrement? Donc, j'ai fait des fiches et j'ai constitué beaucoup de documentation. Je me suis aperçue qu'on pouvait expliquer assez simplement les conséquences de chaque acte de consommation. Donc, l'exemple que je prenais, c'est un paquet de chips qu'on achète comme ça au supermarché sans réfléchir. Eh bien, si ces pommes de terre ont été frites dans de l'huile de palme, ça veut peut-être dire qu'on contribue un tout petit peu, mais qu'on contribue à la déforestation en Amazonie, puisqu'effectivement, on abat des arbres pour installer des plantations pour obtenir cette fameuse huile. Donc, je donne ce type d'explication pour tous les produits en tout cas sur lesquels il y a vraiment un enjeu environnemental ou un enjeu social. Donc, c'est plus expliquer le comment et le pourquoi que donner des trucs de grand-mère.
Alors, les céréales du petit-déjeuner, les produits allégés, l'étiquette des produits équitables, les cosmétiques, le coton, l'eau du robinet. D'ailleurs, vous dites vive l'eau du robinet et je crois que vous avez bien raison. Même si les minéraliers actuellement effectivement, font un petit peu la tête parce que là, ils ont des problèmes. Et donc, c'est tout cela que l'on retrouve. Et ça veut dire aussi qu'une fois de plus, on le sait, le pouvoir peut être aussi vraiment au bout du porte-monnaie. Enfin, donc, Isabelle Giordano en parle régulièrement tous les matins. Mais derrière tout ça, ça veut dire aussi qu'on a à peu près, je crois, 50% des gaz à effet de serre qui sont dégagés par ce type de consommation, au moins.
Oui, bien sûr, parce que le réflexe du consommateur, ça va être de se dire qu'il ne pollue pas.
Et oui.
Ce qui pollue, c'est l'industrie, mais il ne faut pas qu'il oublie qu'une grande partie des produits qui sont fabriqués le sont par l'industrie en réalité. Donc c'est du fait que lui les achète, du fait qu'il en a besoin, qu'on a ces gaz à effet de serre et qu'on a très certainement ce changement climatique. Donc, le consommateur, lui aussi, a sa part de responsabilité.
Donc, on va regarder les étiquettes un petit peu mieux avec vous. On va picorer parce qu'on va prendre certains produits tout à fait intéressants. Et puis, on vous rejoindra d'ici une petite dizaine de minutes. Ce sera juste après Jean-Marie Pelt. Et après cette première chanson choisie par Emmanuel Chupin, notre programmatrice. Ah bah oui, ils sont sensibilisés à l'environnement. Ils sont très bien. Trio, toi et moi, oui.
Ce matin, 3000 licenciés, grève des sapeurs-pompiers, embouteillage et pollution pour Paris agglomération. Ce matin, l'abbé Pierre est mort, on l'enterre sur TF1, deux clochards retrouvés morts près du canal Saint-Martin. Ce matin, le CAC va de l'avant, deux soldats de moins pour l'Occident, 10 civils de tués à Bagdad dans les bras sanglants du djihad. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Ce matin,
menace de grippe aviaire, trop de fascisme en Bavière, l'Iran travaille au nucléaire et Areva squatte le Niger.
Ce matin,
rapport sur le climat, il ne survivrait que les rats, fond des glaces en Alaska et grosse chaleur en Angola.
Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là, on s'aime et voilà, on s'aime, toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime.
Se meurt sous les balles d'une Chine qui fait son capital. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime, toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants. Plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime. Ce matin, il fait presque beau. Ça tombe bien, je me suis levé tôt. Avec le coq et les oiseaux, sans journaux et sans météo. Ce matin, j'attaque un autre jour. Avec toi, mon amour, cette journée durera toujours. On n'en fera jamais le tour. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas. On se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants. Plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime.
Eh bien, nous terminons de fredonner pour retrouver Jean-Marie Pelle. Jean-Marie, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
On va parler de la faim, avec la spirale de la faim.
Oui.
Qui n'est pas exactement une nouveauté, parce qu'on rappelle qu'il y a quand même entre 900 millions et 1 milliard d'individus qui sont sous-alimentés ou bien effectivement qui ont des problèmes encore plus importants dans le monde depuis très longtemps. D'ailleurs, lorsque l'on parle de pays en voie de développement, pour certains, c'est pays en voie de développement de la famine.
Oui, absolument. Alors, les chiffres qu'on avance d'habitude, c'est 860 millions de gens qui ont faim, qui ne mangent pas à leur faim, et 9 millions qui meurent de faim. C'est considérable. C'est un chiffre énorme.
9 millions par an.
Par an. Alors, il y a eu, au cours des derniers mois, une alerte subite. C'est la montée en flèche du prix du pétrole et la montée en flèche du prix des matières premières alimentaires. Et il y a eu des émeutes dans de très nombreux pays.
Une quarantaine de pays sur les émeutes de la faim. Oui. On ne va pas tous les citer.
Des émeutes de la faim. Il faut savoir que c'était le cas aussi autrefois en Europe et que la Révolution française est très largement due aux récoltes désastreuses de l'année qui a précédé 1789 où les gens avaient très faim. Et réclamer au roi du pain. C'est exactement ce qui se passe avec les émeutes de la faim. Et la question, c'est évidemment de se dire, mais que se passe-t-il ? Puisqu'on a cessé de nous rabâcher, qu'il y avait de formidables surproductions agricoles, qu'on les bradait pour presque rien dans les pays du tiers-monde. Alors comment se fait-il que tout d'un coup, il n'y ait plus de surproduction et que par conséquent, beaucoup de pays du tiers-monde sont affamés? Il y a à cela beaucoup de raisons. Bon, d'abord, il y a effectivement ce fameux changement climatique qui fait que les accidents météorologiques sont plus nombreux et plus graves.
Comme en Australie, par exemple.
Absolument, il y a maintenant vraiment presque sans arrêt de formidables sécheresses en Australie, mais dans d'autres pays aussi.
Donc on aura de mauvaises récoltes.
Les récoltes diminuent. Ensuite, il y a le fait que l'on a dérivé vers les biocarburants, des quantités...
Les agrocarburants, Jean-Marie.
Les agrocarburants, voilà. Oui, tout à fait. Des quantités importantes d'aliments, en particulier les grains de maïs.
Alors justement, ça c'est intéressant de rappeler qu'en fait, la première émeute de la faim a eu lieu donc à Mexico, qui est la capitale d'un pays qui est pourtant, on va dire, développé. Et le détonateur, c'était donc la flambée du maïs, qui a été dopée par la demande en agrocarburant,
voilà.
Et qui ont aujourd'hui représente 30%, enfin le maïs représente 30% de la récolte américaine. Donc quand on est passé en très peu de temps de 7 à 14 pesos le kilo, ça a complètement explosé. Et ce qu'il y a quand même derrière, il faut le rappeler, c'est ce qu'on appelle l'ALENA, c'est-à-dire l'accord de libre-échange nord-américain qui a été signé en 1994 avec les États-Unis et le Canada. Simplement, les gagnants, on le sait, ce sont toujours les mêmes. Et là, on est face quand même à un paradoxe de cette mondialisation parce que le Mexique est un des premiers producteurs de maïs aujourd'hui. Il est devenu de plus en plus dépendant du maïs américain transgénique qui produit de manière extrêmement intensive, mais à un prix plus bas. Voilà, donc c'est vrai que ces Mexicains qui produisaient ce maïs, maintenant voient la marijuana qui est devenue la première production avant le maïs.
Oui, alors il n'était pas raisonnable du tout d'utiliser les graines de maïs pour faire de l'éthanol. Parce que si on veut faire des agrocarburants, au minimum, faut-il prendre la plante entière et pas seulement les grains, parce que c'est un gâchis énorme.
Alors on nous dit, parce que là, évidemment, c'est soit conduire ou manger, donc il faut choisir, mais certains vous disent, oui, mais il fallait passer, c'est la première génération, il fallait commencer par le grain, et non pas commencer par l'ensemble de la plante pour y arriver.
Ben non, il fallait évidemment trouver les moyens de faire fermenter la plante tout entière pour fabriquer de l'éthanol grâce à des bactéries judicieusement choisies pour ça. C'est les recherches qui sont en cours actuellement, et passer aux actes après, sans faire ce prélèvement massif de graines alimentaires pour alimenter les voitures. C'est ce que dit M. Ziegler, le grand spécialiste des Nations Unies, qui appelle d'ailleurs ça, il n'a pas tort, un crime contre l'humanité. Alors ça, c'est une deuxième raison. Il y a une troisième raison qui est subtile. C'est que ici, chez nous en France, on ne cesse de parler de la politique agricole commune, la PAC. Alors la PAC, ça consiste à prélever sur le budget de l'Europe 50% du budget global de l'Europe, c'est un chiffre énorme pour l'agriculture, visant à subventionner la culture, par exemple, des céréales, par exemple du maïs. Ne subventionnons pas l'agriculture biologique, ne subventionnons pas les maraîchages, ne subventionnons pas l'herbe, de sorte que les vaches, au lieu de manger de l'herbe, mangent des tourteaux de soja qui viennent d'Argentine ou d'Amérique du Nord.
D'où notre dépendance en protéines.
D'où notre totale dépendance en protéines, et qui sont des tourteaux OGM par-dessus le marché. Alors, nous avons avec cette agriculture des surproductions qu'en fait nous mettons à la disposition des pays très pauvres. Alors, ils sont.
Ce qui veut dire que leur agriculture vivrière.
Voilà,
n'est plus, au tapis.
Est au tapis, parce qu'un paysan d'un pays pauvre n'est pas subventionné. Et donc, il produit plus cher. Et donc, il ne peut plus produire. Et donc, toute l'agriculture des pays traditionnels est en effet maintenant coincée. Alors, par-dessus le marché.
Et le FMI aussi.
Voilà.
Voilà,
le FMI aussi demande à ces pays pauvres de produire des aliments ou du coton pour l'exportation et pas pour se nourrir eux-mêmes, afin de diminuer leurs dettes à l'égard des pays riches. Alors le FMI commence à se rendre compte qu'il s'est trompé et qu'il faut, dans les pays pauvres, développer des cultures vivrières, consommables sur place. L'idée étant qu'il faudrait arriver à ce que chaque pays est un minimum d'autonomie alimentaire. Se greffe là-dessus, parce que nous sommes dans le système capitaliste, n'est-ce pas ? La spéculation. Alors on a beaucoup spéculé sur les matières premières alimentaires. On les a stockées. Donc on a diminué les quantités disponibles sur les marchés au moment où on en avait le plus besoin.
Là, je peux vous dire
donc
que
on a fait s'envoler les prix.
Voilà. Et du côté de Genève et aussi maintenant de la City à Londres, c'est là vraiment que ça se passe aujourd'hui. Des mastodontes du négoce comme Cargill, comme Louis Dreyfus, sont des gens extrêmement discrets, mais tiennent aussi une bonne partie de la solution. Et leur boulot, c'est de toute façon d'acheter et de vendre.
C'est ça. Et quand ils stockent, il faut monter les prix.
Oui.
Et c'est ce qui s'est passé parce qu'il y avait des problèmes sur le cours des matières premières type pétrole, et on s'est rabattu à la spéculation sur les aliments. Moralité, je ne crois pas que les méthodes capitalistes soient applicables à l'agriculture. Je pense que l'agriculture devrait complètement échapper à ce système pervers, et que nous devons évidemment aller vers l'aide aux pays pauvres pour qu'ils développent leur propre agriculture pour eux.
Voilà. Merci à vous, Jean-Marie Pelt. On rajoute bien sûr une demande de plus en plus forte de la part des Indiens, des Chinois aussi.
En plus, qui a joué aussi dans le même sens.
Voilà. Merci Jean-Marie. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
J'avais une belle peau, j'étais mince et fier comme un pied de micro. Torse nu pour un oui, pour un non, quand le soleil fait ses apparitions. Maigrir à tout prix, devenir fin et lancer, rester dans les normes, éviter les débordements. Comment fin sans devenir en chemise. Les jours de détente, on pouvait croire que j'étais le Mike Branch, à qui tout allait, qui se souciait de rien. Je mettais du 36, ça m'allait bien. Maigrir à tout prix, devenir fin. Comment devenir fin sans devenir fou? Comment devenir fin sans devenir fou? Comment devenir fin sans devenir fou? Comment
devenir fin sans devenir fou?
J'étais mince comme un pied de micro, brillant et creux comme un dobro fin, comme une corde de mie, triste comme un film de Jacques Demy ou Catherine Deneuve fait un régime. Elle voudrait séduire même fait slim, mais BB King fou de rage va s'opposer à leur mariage. Comment devenir fin sans devenir fou? Comment devenir fin sans devenir fou? Comment
devenir fin sans devenir fou?
Devenir fin sans devenir. Je montrais mon corps d'Apollo, très à l'aise dans toutes les situations, tu vois, bien là, bien là, bien là. Dans les grands magasins, j'essayais des maillots de bain sans jamais tirer les rideaux.
Ça, on adore évidemment sur France Inter, sans Severino. Et ça tombait assez bien parce que nous sommes une merveilleuse société qui a été capable à la fois d'inventer la famine et l'obésité, chercher l'erreur, donc c'était maigrir. Nous sommes avec Marie-France Corps, la consommation responsable de A à Z, donc qui touche aussi bien santé, environnement et budget. Quand on parle de budget, on peut aussi parler des banques et se dire que l'on peut aussi voter avec son compte en banque. Alors on se dit, bon quoi, l'impact est quand même réduit sur l'environnement quand on travaille dans une banque, oui, certes. Eh bien au contraire, car on oublie en fait les activités évidemment qu'elles financent, et entre autres des projets qui peuvent être quand même assez lourds, assez polluants, autoroutes, aéroports, EPR un peu hors de prix, plantations de palmiers, etc. Donc derrière tout ça, vous avez un petit peu gratté, hein, vous aussi Marie-France Corps, pour nous un peu quand même nous sensibiliser à cela.
Oui, alors c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à la banque dans laquelle on place son argent, parce qu'on voit, on voit le guichet, on voit les bureaux, on ne voit pas grand-chose. Mais en réalité, on place de l'argent ou on dépose simplement de l'argent, et une partie de ces dépôts vont servir à financer les fameux projets qui, eux, ont un impact environnemental. Donc au total, quand on prend le secteur bancaire français, il a des émissions de gaz à effet de serre plus importantes que celles de la France.
Ah oui, d'accord, oui. Donc, l'ensemble de la France. Enfin,
oui. Donc, la façon, oui, l'ensemble des activités françaises.
D'accord.
Donc, si on place son argent dans une banque qui finance des projets industriels lourds, on va avoir un impact beaucoup plus important que si on va mettre cet argent et ces sommes dans un établissement bancaire qui, au contraire, sélectionne ses placements et les industries qui sont financées. Alors, pour l'instant, c'est assez compliqué. On a quelques repères. Donc, il y a l'aspect environnemental, effectivement. Il y a aussi l'aspect solidaire, l'aspect économie sociale. Suivant la façon dont vous placez votre argent, il peut être utilisé pour financer des microcrédits pour des entreprises françaises ou à l'étranger dans les pays en développement, ou au contraire, servir uniquement à financer des projets industriels. Donc là, on est dans une autre échelle économique. Alors, pour se repérer, ce n'est pas évident. On peut choisir dans n'importe quel établissement bancaire des fonds de placement qui seront cotés solidaires ou qui seront côté environnemental.
Ça existe pas mal chez les anglo-saxons, hein. Alors peut-être pour des morales aussi, pour des questions morales ou religieuses.
Voilà, alors aux États-Unis ou dans la société anglo-saxonne, donc beaucoup au Royaume-Uni, vous avez des restrictions. C'est-à-dire que lorsque vous placez votre argent, vous allez être informé que certains secteurs sont évités.
Oui, c'est ça. On imagine bien que les Mormons investissent rarement dans les sex shops, les armements et l'alcool. Quoi.
La pornographie, oui. L'alcool, le tabac aussi. Oui. Donc on appelle ça en fait un principe d'exclusion. Donc l'établissement bancaire ne place pas ses fonds dans ce type d'activité, donc il exclut certaines activités. On a le plus souvent en France un principe qui consiste plutôt à favoriser pour un secteur les entreprises qui sont les plus vertueuses. Donc vous allez avoir un fonds de placement avec une répartition de financement d'entreprises qui se débrouillent bien sur un secteur donné.
Donc ça veut dire qu'il faut vraiment regarder, lorsque vous signez évidemment un contrat et puis vous renseigner. Je tiens à signaler que les Amis de la Terre, qui est quand même cette ONG qui fait un remarquable boulot, a sorti en 2007 donc une évaluation des émissions justement indirectes des banques françaises, qui sera évidemment remis en cause par les banques, mais ça c'est la règle du jeu, et qui met en évidence quand même l'absence de politique climatique et énergétique qui soit quand même crédible. Alors les meilleurs qui sont sortis du chapeau, donc ça a été le Crédit Coopératif et Dexia, sans doute parce que Dexia est la banque des collectivités, que les collectivités aussi poussent à cela. Donc, ils obtiennent quand même un 4,5 sur 10. Et puis, une des plus mal cotées, c'est la Société Générale avec 1,3, qui d'ailleurs, en plus de planter le navire avec 5 milliards grâce au sympathique monsieur Kerviel et puis 4,5 milliards de subprimes. Donc, en plus, effectivement, manifestement, des choix qui ne sont pas très éthiques, quoi.
Bah oui, effectivement, les industries qui se sont financées ont des impacts environnementaux comme l'île de Palme, par exemple, qu'on connaît bien. Oui. Effectivement, une grande banque avec un secteur industriel très fort va très certainement émettre des gaz à effet de serre beaucoup plus que ses concurrentes. Donc c'est un choix à faire. C'est sûr que si on a des placements, on peut s'interroger sur la rentabilité d'un placement qu'on va faire chez Crédit Coopératif, ou bien même si on reste dans sa banque, on peut rester chez Société Générale, oui, mais faire des choix, voir avec le conseiller de clientèle
ce qu'il propose comme
ce qui est proposé, oui, parce qu'il existe dans tous les établissements bancaires la possibilité de choisir des fonds de placement qui sont vertueux.
Il faut faire le choix, il faut demander.
Ouais. On peut avoir accès à la notice. Lire une notice, c'est assez compliqué. Donc, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, je dirais que quand on n'a pas beaucoup d'argent, finalement, le livret A, qui est le produit de placement le plus simple et le plus sécurisé, ouais, est intéressant parce que moins on comprend qu'une partie des fonds sert à financer le logement social. Donc on voit à peu, oui, près où va son argent. En revanche, pour le reste, c'est compliqué, mais tout ça va s'éclaircir.
Là, on va se faire sacrément draguer pour le livret A. Alors moi, je voudrais aussi passer, donc là on a donc ce côté bancaire, mais évidemment, il n'y a pas que ça dans votre ouvrage. On a cet enjeu, on va dire, environnemental et climatique. On verra bien sûr qu'il y a d'autres enjeux, on s'en doute bien en écoutant cette émission. Quels sont les gros points, je veux dire, ou effectivement les priorités pour vous dans notre pays sur lesquels on peut agir?
Oui, alors quand on passe à l'enjeu climatique, on se dit qu'il faudrait peut-être faire installer un chauffe-eau solaire, voire des panneaux photovoltaïques sur le toit. Et en fait, moi je dirais que ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Il faut déjà regarder le chauffage. Donc si le chauffage coûte cher ou si on a l'impression qu'on fait des dépenses assez importantes, c'est vraiment la priorité. Aujourd'hui, on a un étiquetage énergétique des logements qui se met en place en France avec une étiquette, la même que celle qu'on trouve sur le réfrigérateur, hein, de A à G. Bon, la majorité des logements français, de toute façon, sont F ou G. Donc, il y a du travail à faire. Et là, on peut économiser et réduire de un quart, oui, divisé par 4, sa facture énergétique de chauffage.
Donc isolation et ventilation, il faut toujours le rappeler.
Il faut garder la ventilation, mais si on isole sans ventiler, ça va poser d'autres problèmes. Mais là, il y a vraiment beaucoup
donc,
à faire.
Donc priorité, d'abord on isole, puis après effectivement on va s'occuper de l'énergie renouvelable, etc. Oui. Mais moi j'ai vu ça dans votre bouquin, l'Observatoire de l'énergie dit que 85% de la consommation énergétique des Français donc, concerne le chauffage. Donc effectivement, c'est pas rien. Donc on a le chauffage, qu'est-ce qu'on a d'autre? La voiture, on imagine
peut-être La voiture, oui. Chauffage et voiture représentent 27% des gaz à effet de serre. Oui. Donc on imagine bien que derrière, on consomme beaucoup d'énergie. Mmh. Et c'est le point à voir aussi. Donc c'est comme quand on fait un régime, hein, il ne s'agit pas d'arrêter de manger. Là, il ne s'agit pas forcément de se séparer de sa voiture si on en a besoin. Mais si on achète un nouveau véhicule, il faut prendre un véhicule qui soit plus écologique ou plus petit. On n'a pas forcément besoin d'une grande estafette si on est tout seul à s'en servir.
On sait qu'on aura quelques... Enfin, il y a des ruptures, ça ne parle pas de mots, mais en tout cas des belles adaptations d'ici 2011-2012, parce qu'on ne les a pas encore, c'est véritable. On a beau être dans le système plus vert que moi, tu meurs, c'est quand même pas encore ça. Mais ça diminue de plus en plus. Donc on a la voiture. Et puis aussi, là on ne va pas se faire avec des copains, mais il y a aussi la viande, la consommation de viande.
Oui, alors de façon générale, l'alimentation, qui est une source de gaz à effet de serre assez importante, parce qu'il faut de l'énergie pour cultiver. Souvent, on chauffe les serres pour avoir des légumes hors saison. Cultiver, traiter, hein, les pesticides sont obtenus à partir de dérivés pétroliers, c'est de la chimie pétrolière. Mmh. Transporter, conserver. Donc globalement, l'alimentation représente un gros enjeu. Et à l'intérieur de l'alimentation, la viande, surtout la viande rouge. Alors aujourd'hui, on en mange trop. Un Français mange à peu près 250 grammes de viande par jour.
C'est énorme.
C'est beaucoup. Ouais. On pourrait se contenter de 100 grammes, 3 à 4 fois par semaine. On n'a pas besoin de tirer ses protéines uniquement de la viande. Et surtout pas de la viande rouge. Donc il faut limiter sa consommation de viande.
On peut trouver les protéines, on sait, dans les poissons, dans les œufs, dans les légumineuses. Légumineuses aussi.
Voilà. Donc il faut réduire la consommation de viande rouge. On peut remplacer une partie de cette viande rouge par du poulet, qui a un impact environnemental moins important. Et puis compléter, là, comme vous le dites, avec d'autres sources de protéines.
Alors, on va quand même faire la différence, il faut le dire, entre les grandes étendues d'Amérique du Sud et puis un élevage de montagne, par exemple, dans les Bauges, en Savoie ou dans la vallée des Aldudes, parce que là, il y a aussi un entretien des lieux, il y a aussi de la fauche courte qui va éviter les avalanches, il y a aussi, ça va éviter aussi au paysage de se refermer, il y a aussi simplement les femmes et les hommes qui y vivent. Donc, je veux dire que là, on parle peut-être d'un point de vue mondial, hein,
mondialement,
on va rappeler,
oui.
Parce qu'il y a 1,4 milliard de bovins qui sont aujourd'hui dans le monde. 80% des surfaces cultivées dans le monde, c'est-à-dire à la fois pour l'élevage des animaux et pour l'alimentation, donc du bétail, correspondent effectivement à ces bovins. Donc c'est absolument phénoménal. Quoi. On pourrait peut-être nourrir le monde aussi complètement différemment. On fera une émission là-dessus. Mais voilà, je veux dire que lorsqu'on est un petit éleveur aussi dans son coin, quand on fait effectivement des brebis, des chèvres, quand on fait aussi des bovins dans d'autres coins et qu'on bosse plutôt bien, faut faire attention à ce qu'on dit. Quoi, voilà.
Oui, tout à fait. Alors on va parler de bœuf d'Argentine, par exemple. Ça veut dire de la déforestation. Et ça veut dire aussi de la nourriture au soja. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'autant de place. Ces 80% de terres cultivées, ça ne sert pas uniquement à faire paître les animaux, ça sert à faire pousser le fourrage, et notamment du soja. Du soja qui est une denrée, une des premières denrées échangées dans le monde, parce que ça sert vraiment à fabriquer de la protéine.
Et plus de 90%, c'est consommé par les animaux et pas par les hommes. Hein.
Voilà, et donc effectivement, ce serait beaucoup plus intelligent de consommer plus de soja, et au lieu de le donner à des bovins pour obtenir de la viande. Donc là, il y a un formidable gaspillage de terres cultivées. Donc effectivement, oui. Quand on parle de pâturage près de chez nous, ce n'est pas du tout la même équation.
Bon, et puis donc évidemment, si on clique sur la gaz, sur l'aspect gaz à effet de serre, on sait très bien que d'un côté, c'est cher ruminant, c'est pas pareil pour les poulets, c'est pas pareil pour les cochons, etc. Mais ça sort d'un côté, hein, avec des rots, avec des pets de l'autre, donc du méthane et puis aussi du CO2. Et c'est pas évidemment terrible. C'est important d'ailleurs, ces gaz à effet de serre, j'ai eu près de 20%, non ?
Oui, tout à fait, puisque vous savez que les ruminants ont un système digestif un peu particulier, donc ils produisent du méthane. Et le méthane est un gaz à effet de serre plus puissant que le carbone. Donc, ça a un effet multiplicateur. Quand on fait les comptes, effectivement, on est à 1/5 des émissions.
Bon, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause musicale. Et puis, on va revenir. Et puis, on va obtenir aussi appeler Suzanne Deshoux, parce que cette femme qui est médecin de l'habitat a aussi des choses à nous dire sur certains produits.
To be learned, I'd rally get my jamming words in.
Ben voilà, c'était « Sweet About Me », c'était Gabriella Silmi sur France Inter dans « CO2 mon amour ». Je vous signale qu'avec Anne Gouzon, notre webmasteuse, oui, donc vous avez beaucoup, beaucoup de sites hein, qui sont très, très intéressants et qui vont pouvoir vous aiguiller parce qu'on n'a pas la prétention de tout dire dans cette émission. Je vous signale aussi d'ailleurs le catalogue très bien fait, le catalogue « Goût de planète, 1000 façons de consommer responsable » sous la direction de Yann Arthus-Bertrand avec de très bons articles qui ont été signés donc Sabine Delisle qui connaît très, très bien le sujet également. Donc voilà, vous pouvez compléter donc tout cela. Et, ah bah tenez, on va passer à l'autre sujet, oui.
Crio, crio, rend le linge plus beau. C'est prodigieux, c'est merveilleux, on ne fait pas mieux.
On adore, ça on adore évidemment. Alors 19 kilos de lessive, on sait qu'on dose trop. Tenez, alors ça j'ai envie de cliquer là-dessus parce que ça, parfois on a de fausses bonnes idées écolo. Les noix de lavage, Marie-France Corr, vous savez, dont on a entendu parler, qui viennent d'Indonésie, me semble-t-il. Enfin, je ne sais plus exactement.
D'Inde.
D'Inde. Qu'est-ce que ça vaut, ça
Alors, du point de vue de la performance, ça ne lave pas.
Bien.
L'Institut national de la consommation a fait des tests et a constaté que ça lavait aussi bien que de l'eau tiède, à peu près. Hein. Donc, c'est pas très efficace. Et on a un gros problème de traçabilité de la chose. On sait que ça vient d'Inde, mais on ne sait pas vraiment comment c'est cueilli. Est-ce que c'est fait de façon responsable, durable? Est-ce qu'on n'exploite pas de façon trop intensive? Donc, on a une carence d'informations concernant ces fameuses noix. Et est-il vraiment intéressant de faire venir des produits comme ça d'aussi loin pour laver son linge? C'est pas sûr.
D'accord. Donc, ami Bobo, si vous voulez continuer, vous faites ce que vous voulez, mais c'est pas forcément évident. Alors que les petites balles de lavage, quand on met des petites balles de lavage qui jouent un petit peu la mère Denis, quoi, avec leurs petites mains, donc ça ressemble à quoi? Des balles de ping-pong, enfin, plutôt de golf.
On peut mettre des balles de tennis.
Tennis.
On peut acheter des balles spécialement pour ça dans certains magasins bio ou autres. Là, tout simplement, c'est une exacerbation de l'effet mécanique du lave-linge, parce que on constate que quand on met des choses lourdes dans un lave-linge, comme un jean par exemple avec des t-shirts, le jean améliore la performance de lavage globale. Mm-hmm. Donc, si on met ces petites balles, ça fait la même chose, ça bat le linge et ça lave mieux. Donc ça coûte rien et on peut récupérer les balles de tennis. C'est bien, par exemple, quand on lave une housse de couette.
Oui.
Parce qu'elle a tendance à se replier, donc elle ne se lave pas très bien.
Une petite, parce qu'une grosse, vous ne la mettez pas dans votre 5 kilos là.
Oui, ça peut ne pas tenir dans le lave-linge. Mais en tout cas, avec cette action mécanique, on peut du coup mettre moins de lessive, donc c'est plutôt bien.
D'accord, donc c'est un effet un petit peu battoir. Alors nous avons une femme qui connaît aussi ces sujets, mais sous un autre angle. Suzanne Deshoux, bonjour.
Oui, bonjour Denis.
Alors Suzanne, on est ravis de vous avoir au téléphone. Je rappelle que parce que vous intervenez assez régulièrement dans cette émission, vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages aussi, le guide d'une maison saine. C'était ça, hein, c'était le... Voilà. Et donc vous êtes médecin de l'habitat. Et moi j'ai envie de cliquer sur une case très simple. Nous allons dans cette société qui ne veut absolument plus se sentir. Voilà, donc nous allons voir un petit couplet sur les désodorisants. Et Marie-France Corr donc, est une espèce de bête noire aussi pour les fabricants de désodorisants, parce que donc à l'époque, dans Que choisir, elle avait fait un article assez assassin. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement votre point de vue sur ces fameux désodorisants d'intérieur.
Bon, que ce soit désodorisant intérieur ou sur soi, maintenant, on est victime du marketing olfactif. Ces désodorisants ne cherchent pas à masquer. Ils cherchent maintenant à parfumer même. Donc avant au moins, on pouvait espérer qu'ils neutralisaient les odeurs, ce qui n'était pas le cas. Ils se proposaient comme masquants, mais maintenant non, on nous propose d'odoriser. Alors il faut bien savoir que les odeurs, même s'il y a un côté agréable, la quantité de molécules chimiques libérées est quand même problématique pour la qualité de l'air intérieur, étant donné que, tout à l'heure vous avez parlé de la ventilation, comme on ventile plus très bien nos logements, il est évident que les concentrations sont très élevées.
Alors quand on parle, on va dire, de désodorisants, il y a à la fois, on va dire, les aérosols, il y a les désodorisants que l'on pose, il y a les désodorisants électriques, et puis dans une faible mesure, voilà.
Aussi, il y a les encens. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est une nouvelle pollution, c'est-à-dire que non content d'avoir des pollutions chimiques, c'est-à-dire des molécules qui s'en vont dans l'air, on a aussi des particules ultra fines. Alors en ce moment, on parle beaucoup de nanoparticules, de nanotechnologie, on a des craintes au niveau sanitaire, parce que plus ces particules sont fines, plus elles vont aller très très loin dans le poumon et passer dans le sang et aller dans tous nos organes. Et donc, il faut absolument faire un peu la guerre aussi, à la fois aux particules chimiques et aux particules matières. Mmh. L'encens, par exemple.
Oui, parce que quand on dit, pardonnez-moi Suzanne, lorsque l'on dit effectivement un désodorisant, dit naturel. voilà, c'est...
Je crois que Marie-France a travaillé dans Que choisir, et le dernier numéro de Que choisir est assez impressionnant en montrant justement deux produits dits naturels qui sont bien sûr 5 fois plus polluants que les autres. Il faut bien quand même qu'on se rende compte que c'est pas la nature, c'est de la chimie aussi. Oui. C'est, la chimie n'existe pas qu'en synthèse. Donc, c'est pas parce que c'est naturel qu'il n'y a pas de molécules chimiques. Et des fois, il y en a beaucoup plus parce qu'on maîtrise moins les process.
Donc, on va dire que une orange, et si on plante des clous de girofle à l'intérieur, on fabrique aussi un excellent désodorisant.
Mais oui, mais on ne va pas non plus être paranoïaque quand même.
Hein. Et non, mais absolument.
Il est évident que l'orange, il y a des huiles essentielles.
Voilà, des huiles essentielles, bien sûr.
Et donc, là aussi, si vous voulez, il faut rentrer tout ça dans un contexte global. On a aussi, face à ces produits-là, les changements climatiques qui modifient aussi nos expositions. Je m'explique. Sentir des huiles essentielles d'agrumes, on en a senti et on n'a pas eu quand même de grosses pathologies. Le problème, c'est que maintenant, on multiplie la quantité, donc dans nos intérieurs clos, il faut bien voir dans des espaces clos, et qu'avec les changements climatiques, on a de plus en plus de pics d'ozone. Mmh. Cette ozone, rentrant dans les logements, réagit très fortement avec justement ces fameux terpènes qui sont libérés par ces huiles essentielles. Et donc, va en faire, et le produit de secondaire de cette réaction terpène plus ozone, c'est des aldéhydes, dont ce fameux formaldéhyde qui, quand même, nous pose aussi de sérieux problèmes.
Donc, on va un peu éviter les désodorisants d'intérieur, hein, manifestement, oui. C'est ça. Si je clique alors sur une autre case, on va le faire assez vite, mais celle des poussières. Et les poussières vont nous amener à parler, évidemment, de produits. Bon, on a plein de particules fines, et on se dit surtout comment ne pas les remettre en suspension, ces fameuses poussières.
Voilà. Bon, de la poussière, c'est banal dans une maison.
Bien sûr.
Bon, donc, on en aura toujours. L'essence, bon, on nous a déjà appris qu'il valait mieux pas passer le balai, qu'il valait mieux passer l'aspirateur. Bon, c'est vrai que l'aspirateur garde dans le sac les, ou dans les récipients, hein, ceux qui ont pas de sac aussi, les grosses particules et va quand même remettre en suspension les très fines, justement celles qui vont rester longtemps en suspension dans l'air et qui vont être inhalées. Alors, comment faire ? Il est simple, il vaut mieux nettoyer à l'humide, mais l'humide, on ne va pas tremper. On va prendre des petits tissus en microfibre, soit à peine humidifiés.
Légèrement humidifiés.
Voilà, oui. C'est pas la peine non plus d'aller y mettre des produits chimiques. Mm-hmm. C'est simplement à peine humidifié. Et à ce moment-là, on ramasse ces poussières et on ne les remet pas en suspension.
Mais ce ne sont pas des lingettes, on est bien d'accord.
Voilà, justement, c'est pour ça que je mettais une petite nuance.
Oui.
Parce que les lingettes sont fortement polluantes, parce qu'elles sont imbibées de produits qui vont libérer des composés dans l'air.
Bien. En ce qui concerne les produits aussi qui vous disent, ce n'est pas la peine de rincer. Vous mettez notre produit et vous n'avez pas besoin de rincer les murs, les sols, etc.
Oui, c'est un sérieux problème actuellement. Parce que bon, c'est vrai qu'on veut la facilité. D'abord, ce serait mieux qu'on nettoie en frottant un peu l'action mécanique. On en a parlé tout à l'heure avec les
l'huile bases. De coude.
Mmh. C'est mieux que l'action chimique. Mais bon, ça, on veut faire vite. Et puis, bien sûr, on nous vend des produits en nous disant « Oh, mais pas besoin de rinçage ». Bon, effectivement, ça sèche très vite et on n'a pas besoin de rincer. Mais c'est dû à des produits chimiques, c'est dû à des éthers de glycol et à certains alcools. Alors, il serait quand même plus sain de quand même rincer. Ce n'est pas une opération très très longue. Et quand même, ça diminuera la composition, les émissions ultérieures dans l'air.
Eh bien, écoutez, un grand merci Suzanne Deoux, parce que là, on pourrait parler aussi du nettoyage. Vous réinterviendrez, hein, vous le savez, dans cette émission. Je vais me retourner vers Marie-France Corr. Marie-France, dans votre ouvrage, vous nous rappelez évidemment dans un chapitre qu'il y a les fameux 3 R, à savoir réduire. Donc, réduire, ça veut dire acheter et utiliser moins dans cette société du gavage, réutiliser pour prolonger donc la vie d'un bien, lui donner une espèce de seconde vie, même si c'est pas dans la culture actuelle, mais ça l'a été il y a 25 ans, et recycler aussi les produits. Derrière tout ça, comment vous voyez se dessiner, peut-être assez rapidement, mais l'avenir, il y a des bonnes, il y a des mauvaises nouvelles, qu'est-ce qu'il y a?
Les bonnes nouvelles, c'est qu'on parle de plus en plus de développement durable, d'éco-gestes. On est conscient des problèmes qu'on va avoir à affronter dans les années à venir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de battage médiatique, donc cette prise de conscience peut s'accompagner d'un grand ras-le-bol de la part des consommateurs. Donc le fait que les médias et les personnalités s'intéressent aux enjeux environnementaux et sociaux est à double tranchant.
Il peut y avoir saturation, mais bien sûr. Ouais.
Voilà, il peut y avoir saturation. Bon, néanmoins, je crois qu'il y a quand même une prise de conscience chez les consommateurs. Et de l'autre côté, les distributeurs, les fabricants, eux aussi, aujourd'hui, commencent à faire des efforts et proposent des choses, proposent des produits. Mais alors, on parle de la règle des 3 R. Attention, consommer responsable, ça ne veut pas dire acheter des trucs un peu sophistiqués qui sont écolos. Ce n'est pas ça. Justement, donc, c'est d'abord réduire. Donc, il y a des tas de choses qu'on n'a plus besoin d'acheter, puisqu'on réduit. Quand on dit voter avec ses achats, ce n'est pas du tout démocratique, parce que quand on a des sous, on peut voter. Quand on n'en a pas, on ne peut pas. Eh bien non, ce n'est pas ça. C'est justement qu'il y a des choses qu'on peut ne pas acheter. Et donc, là, on réduit. On peut, par exemple, arrêter d'acheter de l'eau en bouteille. Donc, on produit moins de déchets. On peut décider de manger moins de viande rouge. Mmh. Donc, on réduit un petit peu sa part de gaz à effet de serre. On peut décider de ne pas acheter de voiture si on habite en ville et qu'on n'en a pas besoin. Donc, ça, c'est réduire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu le régime. Donc, on mange moins, on n'arrête pas de manger. On mange moins, bien et même mieux. Alors, réutiliser, effectivement, on allonge la durée de vie des produits. Donc, on ne rachète pas systématiquement. Et recycler, c'est un petit peu pareil. Une fois qu'on met au rebut un produit, finalement, il va avoir une deuxième vie parce qu'on récupère le matériau et qu'on en refabrique un avec. Donc c'est dans cet ordre-là. Alors, c'est réduire, réutiliser, recycler.
Si vous souhaitez en savoir plus, hein, on pourrait détailler, ça se trouve, on va revenir sur cet aspect-là. Donc, la consommation responsable de A à Z, tout ce que vous devez savoir pour bien et mieux consommer aux éditions du Village Mondial. Et puis, cette émission, on va la terminer, je vous l'ai dit tout à l'heure, par petit coup de cœur et puis aussi petit coup de gueule. Eh bien, ça s'appelle
distribution des prix. Carton rouge, carton vert.
Oui, un carton rouge et de taille. François Veillerette, bonjour.
Bonjour.
François, vous êtes le président du mouvement pour le droit des générations futures. Et j'allais dire qu'on va se prendre une merveilleuse petite rasade de pesticides qui nous vient de la Commission européenne. Racontez-nous.
Oui, alors la Commission européenne a modifié un certain nombre de limites maximales en résidus pour les pesticides dans les fruits et les légumes sur toute une série de produits et avec toute une série d'aliments. Hein, parce que ce sont des pesticides qui n'ont pas encore été évalués, donc il fallait définir des limites maximales communautaires pour harmoniser tout ça, ce qui est en soi une bonne chose. Le problème, c'est que ça va conduire à l'augmentation de beaucoup de ces limites maximales en résidus pour un pays comme la France, notamment sur des fruits comme la pomme, la pêche ou les raisins.
Ah, pourquoi ? On ne comprend pas, là. Oui, pourquoi ? Pourquoi on en avoir plus ?
Le but de la manœuvre, c'est effectivement pour ces cultures pour lesquelles on utilise beaucoup de produits, de rendre l'utilisation toujours aussi facile, de ne pas restreindre l'utilisation. Vous comprenez bien que si on fait descendre ces limites maximales en résidus, ça veut dire que sur le terrain, dans les vergers, dans les vignobles, il va falloir utiliser moins de produits. Or là, en augmentant ces limites maximales en résidus, on va permettre une culture de plus en plus intensive. Et ceci au mépris, c'est ce que nous prétendons, de la santé, puisqu'il y a un certain nombre de doses de toxicité qui ont été élevées pour que ce calcul puisse être fait. C'est-à-dire que là où on tolérait 0,03 mg de quelque chose, maintenant on en tolère 3, 4 ou 10 fois plus.
Et donc derrière tout cela, on va dire...
Derrière tout ça, on a quand même quelque chose de très contradictoire. Au moment où en France, justement, Michel Barnier présente un plan pour la réduction de l'utilisation des pesticides, qu'il faut d'ailleurs saluer dans ses grandes lignes, même s'il comporte des défauts. On semble, au niveau national, se diriger vers, dans les 10 ans qui viennent, une réduction
de 50%
de l'utilisation des pesticides. Oui, alors, c'est l'objectif. Maintenant, il va falloir se battre pour qu'il soit vraiment atteint. De l'autre côté, au niveau de la Commission européenne, on nous met en place des limites maximales en résidus qui vont permettre une utilisation encore plus importante. Donc, tout ceci est complètement contradictoire. Il faut absolument que les représentants de l'État français protestent au niveau de l'Union européenne pour plutôt aller vers une diminution de ces limites maximales en résidus et une diminution de l'utilisation des pesticides sur les fruits, les légumes et céréales.
On a un petit peu l'impression, François Huguet, qu'il y a une espèce de tour de passe-passe là, avec cette histoire-là.
Oui, c'est tout à fait un tour de passe-passe. Et plus je penche sur le dossier, plus je découvre le tour de passe-passe, puisque on s'est aperçu qu'il y a eu finalement 2 évaluations par l'EFSA, qui est l'autorité sanitaire alimentaire européenne. Il y a eu beaucoup de problèmes à la première évaluation. Et pour que tout ceci et la deuxième évaluation passe, il y a de nombreuses doses toxicologiques de référence qui ont été modifiées, et également des évaluations d'exposition qui ont été modifiées d'ailleurs, qui n'ont pas été supervisées par l'EFSA, mais qui viennent de propositions d'États membres ou de la Commission. Donc tout ceci ressemble un peu à un bidouillage, un bricolage de dernière minute pour que certaines LMR soient à toute fin modifiées, élevées, observer, et comme par hasard, c'est sur les fruits, légumes, fruits, disons pommes, etc., et raisins, que les plus grosses augmentations ont lieu, et on sait bien que c'est sur ces cultures qu'on a des gros problèmes d'utilisation. Et je le rappelle que la viticulture, sur 3% de la surface agricole, utilise 20% des produits pesticides. Donc on voit très bien que là, le poids des lobbies.
Carton vert.
Spectacle et avenir des enfants avec Pascal Pruvot. Bonjour.
Bonjour Denis.
Vous êtes marionnettiste et un spectacle qui s'appelle L'usine à bonheur est tout à fait intéressant parce que vous le jouez donc actuellement au théâtre de plein air du parc des Buttes-Chaumont à Paris dans le 19e arrondissement. Et Guignol au secours de l'écologie, racontez-nous s'il vous plaît.
Eh bien oui, Guignol va s'intéresser à l'écologie. C'est pas trop tôt puisque ça fait quand même 200 ans qu'il existe.
Et oui.
Guignol. Et donc là, il va être aux prises avec la sorcière Malabos, qui vient d'inventer une boîte extraordinaire qui permet à tout un chacun de posséder tout ce qu'il désire.
Donc d'avoir une vie matérielle tout à fait harmonieuse et complète, on va dire.
Voilà, très complète.
Mais
les gens vont commencer à en acheter, et puis ils vont devenir dépendants de cette boîte. C'est-à-dire que, au fur et à mesure, eh bien, la sorcière va obliger les gens donc à avoir cette boîte, de s'engager sur une certaine durée, et puis de venir s'approvisionner chez elle pour l'énergie, notamment.
Donc ils vont être dépendants, hein ?
Complètement.
Alors, un extrait de ce spectacle.
Alors, j'ai entendu dire que vous vendiez des boîtes extraordinaires.
Ah oui, plus que ça.
Une question toutefois, quelle est la source d'énergie qui alimente ces boîtes ?
D'après ce que j'ai vu, les boules d'énergie qu'on met dedans... Elles proviennent de la forêt enchantée.
Ah bon ?
Ouais, ouais, l'énergie est puisée dans le sous-sol, après avoir arraché les arbres, creusé dans la terre, voilà quoi. Ce que j'ai vu, moi.
Bon, mais ça peut être dangereux pour notre réserve en oxygène, et surtout pour les habitants de la forêt.
Bon, c'est pas un problème, ça, il y a tellement d'arbres partout en plus de ça.
Ah,
et puis le sous-sol est immense, et puis de toute façon, on pourra boucher les trous. Hein.
Voilà, c'est ennuyeux.
Ce qui est intéressant, c'est que ça concerne vraiment, on va dire, les enfants à partir de 4-5 ans. Avant, c'est pas la peine. Mais alors, vous abordez aussi des sujets comme les OGM, les légumes cultivés de manière intensive aussi dans les spectacles ?
Eh ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a un paysan qui va acheter cette boîte, et puis ça va lui permettre d'avoir des légumes extraordinaires. Mais ce qui se passe, c'est que bon, il va avoir une carotte et des légumes tellement énormes, et il ne sait pas trop ce qui va se passer. Il y a une araignée qui vient manger une carotte, par exemple, elle devient de plus en plus grosse, et puis elle devient encore de plus en plus grosse. Et voilà, quoi. Donc on dénonce un petit peu aussi les effets des choses un petit peu inconnues sur l'organisme, sur les organismes animaux, donc bon, puisqu'on parle d'une araignée, là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a quand même l'effet sur les êtres humains marionnettes, en l'occurrence, puisque la femme du ministre qui a donné l'autorisation de mise sur le marché de cette boîte a mangé une carotte et se retrouve avec des dents de lapin. Et en fait, bon, c'est ce qui va faire que le ministre va interdire la commercialisation de ces boîtes. Mais il aura fallu attendre ça pour que ça ait lieu.
C'est pas toujours pratique d'y avoir des dents de lapin, sauf bien sûr quand on est un lapin. Alors, initier les enfants aux enjeux de l'écologie, c'est ce que vous souhaitez faire. Vous réussissez votre coup, donc c'est au théâtre de plein air du parc des Buttes-Chaumont. Et alors, c'est le mercredi, samedi, dimanche ?
Mercredi et dimanche à 15h30, le samedi à 16h30, et c'est au théâtre Guignol-Anatole, donc c'est face à la mairie du 19e, à l'entrée du parc.
On vous souhaite beaucoup de succès, à bientôt Pascal, merci.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Fabrice Desmaz et Julien Dumont, à Sophie Ledoré, Jean-Christophe Pinaza et Maïté Adam, donc, qui réalisaient cette émission, ainsi qu'Emmanuel Chupin qui assurait la programmation musicale. La semaine prochaine, Jean-Marie Pelt nous emmènera dans le Tricastin. Il s'est passé quelques petites choses cet été. Ce seront les journées du patrimoine. Alors on va s'intéresser au glacier, le glacier blanc, reportage dans les Hautes-Alpes avec Christian Couloumi, parce qu'ils font partie de ce patrimoine. Et puis aussi Christelle Six qui est glaciologue. On ouvrira sur les glaciers du monde et puis nous compterons notre CO2 avec Elisabeth Laville qui nous parlera des surgelés.